L'hiver, c'est beau. Et on dirait que, bon, la luminosité est particulière. Encore plus spectaculaire, si on veut, ce coucher de soleil sur la baie de l'estuaire de la rivière Nipisiguit, avec le blanc, avec la végétation qui perce la neige.
CO2, mon amour.
Tout un spectacle que, bien souvent, on manque en demeurant à l'intérieur l'hiver.
Denis Chessou.
Alors, allez jouer dehors.
Voyez un petit air de Québec, comme ça, avec la rivière Nipisiguit, ça nous fait du bien en plein hiver. Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous accueillir dans ce magazine de nature et d'environnement. CO2 Mon Amour, l'émission qui rapproche les hommes en nous rapprochant de la nature. Avec aujourd'hui Kevin Pelot et Raphaël Rousseau à la technique, je n'oublierai pas Patrick Deschamps, Camille Blanès, notre collaboratrice, et Lise Combe qui réalise l'émission. Alors évidemment, je suis Charlie, je suis Bataclan, je suis Nice, je suis migrant, je suis forêt amazonienne, je suis grande barrière de corail, je suis banquise, ours polaire, taureau dans l'arène, abeille, je suis Alep, mais qui suis-je enfin? Je suis un citoyen sur cette terre et de ce qu'il en reste, ballotté entre indignation, pétitions multiples, horreur et beauté, croyance en l'homme, jusqu'au bout, jusqu'au dernier moineau, jusqu'à la dernière fleur sauvage. Bon, cette semaine, on a appris que le Wi-Fi pouvait arriver dans les TGV, donc peut-être qu'on s'en fiche un peu, si c'est pour regarder en likant les derniers messages désespérés des sacrifiés asphyxiés avec leurs enfants dans les caves de la belle cité martyre d'Alep. Bon, sauf à nous rendre encore plus dépendants, à ne pas envisager de faire une pause dans le train en laissant dérouler nos pensées et le paysage sous nos yeux. Alep, c'est un joli nom parfumé, comme Bagdad autrefois, avec ses 1000 nuits plus une, ses lampes magiques, ses tapis volants, cela forçait au rêve oriental. On suivait les ruelles ombragées des soupes millénaires, embaumées d'épices, et au bain mort, on pouvait se laisser passer sur l'âme et sur le corps ces fameux savons à l'huile d'olive naturelle en se berçant des mélopées de la houde. Le pain d'Alep explosait du chant des cigales, un poème propice à la sagesse, à la douceur de ses habitants, et l'air sentait bon le printemps de la liberté. Et puis l'oiseau s'étude, s'est enfui. Le pouvoir sans limite et sa violence dévorent tout comme les sauterelles. Le pain d'Alep n'est plus aujourd'hui qu'un tronc déchiqueté avec les barils d'explosifs. Le pain d'Alep, c'est aussi le pain blanc de Provence et le pain de Jérusalem. Et il survivra, car il en a vu d'autres depuis le temps que ses racines fouillent la rocaille. Alors son nom latin est celui de son proche cousin, Pinus Brutia. Il est taillé pour la lutte et d'une patience infinie. Alors qu'importe les étoiles à présent, allumez-les toutes, dévoilez la lune, rayonnez, buvez aux fontaines et plantez des arbres, car rien n'est complètement perdu. Dans cette émission aujourd'hui, nous recevons le naturaliste Marc Giraud avec son ouvrage « La nature au fil des saisons ». Il y aura une parole de jeune dans le Loir-et-Cher avec une animatrice nature, oui, c'est aussi de la culture d'ailleurs, des artistes pour illustrer l'humanité face à son destin, une petite cure de détox quand même avant Noël, si on a le temps pour nettoyer l'organisme, et puis bah, l'actualité, la belle actualité avec vous Frédéric Denry. Bonjour cher Frédéric.
Bonjour Denis.
Frédéric, bon, on va revenir un petit peu quand même sur la pollution de l'air, on y est pas pour grand-chose. Bon, peut-être qu'un peu quand même. Qu'est-ce que l'on peut dire d'un peu différent, on va dire, voilà, ou qui n'a pas été sorti forcément dans les médias.
Qu'est-ce qu'on peut dire d'un peu différent? C'est que premièrement, alors effectivement, ça par contre, ça a été dit, les particules, il y a aussi du chauffage urbain, il y a aussi en été ou printemps les pulvérisations d'engrais, il peut y avoir aussi les carrières, mais pour ce qui nous préoccupe, c'est-à-dire...
Les carrières, c'est-à-dire en fait, c'est les poussières des carrières.
Les poussières des carrières qui participent. Mais pour ce qui nous préoccupe, c'est-à-dire pour ce qui intéresse nos pneumologues, ce sont les particules issues pour l'essentiel des moteurs à combustion interne. Et par contre, il y a un colloque qui s'est tenu l'autre jour à la maison de la RATP qui l'a bien montré. C'est que, il n'y a pas que le diesel dans la vie. Le diesel, c'est pas bien, ça on le sait, mais on le sait même depuis le début, depuis l'invention du moteur diesel. Il n'y a qu'en France qu'on a fait mine de le redécouvrir dans les, maintenant. Il y a aussi le moteur à essence. Et oui, le moteur à essence émet plus de microparticules très, 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 très fines que le moteur diesel. Et c'est lié en partie à quoi? C'est lié en partie à l'obligation d'installer le mécanisme qui était censé lutter contre ces particules, c'est-à-dire le filtre à particules. En fait, on s'est aperçu que le filtre à particules, 1. Intrinsèquement, 2. Parce qu'il a besoin d'une température de sortie des gaz d'échappement qui n'est jamais atteinte en ville, eh bien, en gros, il divise par 10 le diamètre des particules, du coup, il multiplie par 100 la surface des particules qui sortent, plus petites, du pot d'échappement. Ce qui veut dire que, depuis le temps qu'on a mis en place des filtres à particules, on a augmenté la surface d'échange entre nos poumons et nos particules, ce qui accroît les risques que vous connaissez et ce qui accroît en plus l'efficacité des allergènes qui se trimballent dans l'air. Voilà.
Bon.
Donc bien. Moteur, en gros, voilà.
Solution,
le moteur à gaz naturel pour véhicule, le gaz de pétrole liquéfié ou la voiture électrique. En fait, c'est la démonstration, cette affaire-là, que les moteurs à combustion interne qui utilisent des carburants liquides sont de toute façon nocifs intrinsèquement. Voilà, donc le gaz ou l'électricité, mon cher.
Et là, on se rend compte que le covoiturage aussi peine à décoller. Autant ça fonctionne sur les grands parcours, mais sur les domiciles travail, ça
ne fonctionne pas. En gros, globalement,
2 à 3%, pas plus.
Les plateformes qui font moins de 15 000 inscrits ne fonctionnent pas, elles sont en déficit et globalement ça marche pas. Sur des distances de plus de 100 km ça fonctionne, mais là où on devrait en avoir le plus besoin, là où on en a le plus besoin sur le domicile travail, bah, ça ne fonctionne pas du tout. L'autopartage fonctionne mieux, Denis.
On va se faire du bien avec vous, Marc Giraud.
Vous allez bien, Jean-Marc? Je suis
bien
là pour ça.
Bah, vous êtes là pour ça. Bah, oui. Là vous sortez aux éditions à Larry, la nature au fil des saisons, donc merveilleux cadeau que l'on peut mettre dans sa hotte, avec d'ailleurs en couverture, ça c'est très très agréable parce qu'on a une mésange qui est superbe et qui est accroché donc à un bouquet de cynorhodon, ce qui veut dire que on a plus, je crois, de vitamine C là-dedans dans les oranges.
Et oui, ça tombe bien parce que c'est la période des rhumes et justement dès que ça gèle, ces petits bonbons rouges en fait à la vitamine C, on en voit plein les baies. C'est les glandiers, donc c'est très très courant, il y en a partout et on donne nos médicaments comme ça bio et à portée de la main.
Donc on en fait du thé en Suisse, on fait de la soupe en Suède, c'est extrêmement prisé. Comme
on en fait des tartines, il y a des recettes de cuisine sauvage dans mon livre et moi c'est tartines pour changer un peu de la confiture parce que ça, on trouve ça partout. Oui. Et vraiment on en fait ce qu'on veut, c'est très bon, c'est une pâte assez sucrée, c'est très bon.
Vous faites ça aussi, d'accord. Oui.
Et quelle a été aujourd'hui, je dirais, la petite humeur d'hiver, puisque vous êtes venu donc aujourd'hui?
Ça se rapproche assez de celle de Frédéric, parce qu'évidemment en bon ornitho, en bas de la maison de la radio, je suis allé regarder les oiseaux, j'ai vu une bergeronnette, j'étais content, des cygnes, des canards colverts, des mouettes rieuses, toutes rieuses, des gens riant, et je me suis dit, mais ils sont au milieu de la pollution, quoi, et rien n'est visible. Et il y a une espèce d'insouciance, c'est un peu ce que disait Nicolas Hulot, hein, c'est le syndrome du Titanic, c'est-à-dire que tout le monde est content parce qu'on ne voit rien. Mais en fait, derrière, ça travaille, et ce qui m'énerve, moi, c'est quand on dit que la pollution vient de la météo. Ben non, d'habitude, on pollue autant, sauf qu'on balance ça chez les voisins grâce au vent, mais la pollution, elle est toujours là, et ça fait un moment qu'on devrait s'en préoccuper.
Voilà, et puis il n'y a pas que les pics, les fameux pics de pollution, voilà. Hein, loin de là, donc c'est évidemment toute cette pollution rémanente et qui est là. Et vous avez d'ailleurs aussi, je plains un petit peu les gens de Gardanne là, qui m'ont écrit, parce que là en ce moment ils sont aussi très très asphyxiés, donc du côté des Bouches-du-Rhône.
C'est étonnant.
C'est étonnant, oui, on se demande. On se demande, et déjà la ville elle est toute rose, mais ça c'est normal, c'est avec les loups rouges, donc c'est encore autre chose. Bon écoutez, on a quand même nos
sujets. On est optimiste, quand même,
on a plein de nouvelles. On a plein de nouvelles sympas aussi. Bah ouais, c'est le problème, c'est de l'environnement. Et puis, vous allez voir, on va avoir donc une jeune fille de 27 ans dans le Loiret. Cher, qui a cette passion pour la nature, qui est animatrice. Bref, on a pas mal de choses. On secoue tout ça et puis on va secouer aussi le premier disque. Allez, on y va. Oh, Bah, c'était Neville Brothers, mais oui, sur France Inter. Et puis donc, il y a des messages qui arrivent. Celui-là, on l'a emmagasiné depuis un certain temps. 01 56 40 40 35.
Bonjour Denis, bonjour à tous. Je m'appelle Pauline, je suis à Saverdun. On entend beaucoup parler de El Niño. Je voulais savoir ce que c'était précisément. Merci.
Voilà, donc Saverdun, si je dis pas de bêtises, ça va être du côté de l'Ariège. On est entre Toulouse et Pamiers, je dirais. Et,
oui,
c'est ça. Oui, c'est pas l'Ariège montagneuse, hein, c'est l'Ariège où vous avez Mirepoix qui n'est pas loin.
Je vous fais confiance, c'est vous qui faites du vélo.
Voilà, absolument. Et je crois que vous avez les Pyrénées quand vous êtes du côté de Saverdun. Bon, c'est pas le cœur du sujet, c'est effectivement El Niño. Alors, le fameux El Niño. Alors, déjà, parce que on a eu souvent, nous comme ça en conférence aussi, des gens qui nous disaient, mais attendez, c'est quoi? C'est un vent? Est-ce que c'est un courant? Non, c'est un phénomène.
C'est un phénomène global. Denis, voyez-vous un robinet d'eau chaude et d'eau froide, celui de l'évier, du lavabo, de la douche? Vous avez le chaud est souvent à gauche, le froid est souvent à droite. Bon, situation normale sur le Pacifique équatorial, le chaud, c'est-à-dire l'eau chaude, est à gauche et l'eau froide, on va dire, est à droite. Et bien, El Niño, c'est un peu un renversement de cette affaire-là. C'est-à-dire que vous avez un plombier facétieux qui s'appelle un cycle climatique que l'on appelle l'ENSO, qui modifie les deux. Et ça a des conséquences. Alors, dramatique pour l'économie péruvienne, parce que dès lors que vous avez de l'eau chaude, phénomène El Niño sur les côtes du Pérou, eh bien l'eau froide qui vient d'Antarctique chargée de nutriments ne peut plus remonter, et vous n'avez plus ces anchois du Pérou qui font vivre le Pérou, et qui font vivre aussi les saumons d'élevage, et ce qui fait qu'un an après, vous avez une augmentation du prix du saumon à Noël, ce qui n'est pas le cas. Et à l'inverse, vous avez un assèchement de tout le Pacifique occidental. Vous avez un temps qui est plus sec, pas seulement d'ailleurs sur l'Indonésie, vous l'avez aussi sur l'Inde, sur l'Afrique australe, sur les Caraïbes et même le nord-est du Brésil. Souvenez-vous des grands incendies en Indonésie en 97-98, c'était lié à un phénomène El Niño.
Et d'ailleurs, on a estimé à 35 milliards de dollars les dégâts qui ont été causés, avec 23 000 personnes quand même qui ont disparu. C'est pas rien. Quoi.
Non, c'est pas rien du tout. Ouais. Alors par contre, il y en a que ça réjouit à Noël. Alors, El Niño, ça veut dire enfant Jésus, hein, pour les Péruviens. Il y en a que ça réjouit, ce sont les surfeurs à Hawaï, parce que dès lors que vous avez cette eau chaude qui passe de l'ouest au centre du Pacifique, eh bien en gros, cela renforce les vents et tout le monde est content sur les vagues et en Polynésie française et à Hawaï.
Donc là, ils font des prières pour qu'il y ait El Niño, alors que d'autres personnes se disent, oh, si on peut
l'éviter. Globalement, les conséquences sont assez dramatiques pour l'ensemble du monde pauvre, qui constitue à peu près un tiers de l'humanité.
Et c'est on dit qu'il se déclenche tous les 3 à 7 ans, à peu près.
Tous les 3 à 7 ans. Alors la question est de savoir si le réchauffement climatique, en augmentant la température moyenne des eaux de surface du Pacifique, va accentuer ce phénomène El Niño, va l'accentuer en termes d'intensité et va augmenter la fréquence. On n'en sait strictement rien. Les modélisations semble montrer qu'on va vers ça, mais on n'en sait rien pour l'instant. Il faut bien savoir que El Niño, voilà, c'est pacifique, mais ça a des conséquences sur le monde entier, y compris chez nous.
Bien. Et alors, Marc Giraud, je me tourne vers vous. Là, on n'a pas forcément de phénomène El Niño complètement dans la nature que vous aimez, avec cette nature au fil des saisons. Chez Alary Édition, on a parlé du cynorhodon, donc qui est en couverture. On voit des tas de choses. Puisqu'on est en hiver, les insectes en hiver, où sont-ils?
J'en ai vu hier. Des petits papillons. On en voit même sur la neige. Hein. C'est étonnant, mais c'est des petits papillons de nuit, des phalènes qui sont vraiment... incognito, on les regarde pas parce que d'abord c'est la nuit puis qu'ils n'ont aucune couleur, mais il y en a encore. Et hier j'étais avec mes deux chevaux et comme il y avait un petit rayon de soleil, il y avait des mouches autour, enfin pas beaucoup, mais ça se réveille puisqu'il n'y a pas de gros hiver. Au moindre petit coup de soleil, rayon de soleil, il y a des insectes qui sortent, on peut voir un lézard à l'occasion, enfin voilà, c'est un petit peu déréglé, c'est vrai.
Et notre belle cigale qui a fait le buzz quand même pendant tout l'été, eh ben, on la voit pas non plus, là. Normal. Ben,
alors là, les adultes de cet été ont disparu, hein. Voilà. Mais ils ont pondu et leurs larves sont sous terre, en fait, pour 2-3 ans, pour les espèces de chez nous, hein. Elles sucent les racines, hein. C'est la famille des pucerons. Donc c'est comme les éphémères, on dit ça vit qu'une journée, mais non, à l'état adulte, parce que sinon ça peut vivre longtemps à l'état de larve, et les cigales c'est pareil. Il y a même une cigale de 17 ans en Amérique, c'est-à-dire que pendant 17 ans on n'en voit aucune, et tout d'un coup tous les adultes émergent en même temps. Alors ça serait une réaction aux prédateurs, parce que les prédateurs n'ont pas le temps de vivre assez vieux pour connaître cette manne et se précipiter.
Ah oui.
Voilà, c'est ce qu'on dit, c'est avec des calculs savants, très savants, on a calculé que ça, par rapport aux usages des prédateurs, surgir tous les 17 ans, c'était un bon plan. Voilà, ça, c'est une des ruses de la nature, peaufinée par la sélection naturelle.
Bon, et alors là, évidemment, on feuillette plein d'histoires, hein, au fur et à mesure, donc dans cette nature, au fil des saisons. Et puis, ce que vous aimez beaucoup, c'est l'éducation à l'environnement. Et là, oui, on va se faire plaisir.
Parole de jeûne.
Parole de jeune, on va rencontrer une jeune femme qui s'appelle Léanig Lelen. Donc, elle n'est pas corse, non, elle est bien bretonne. Et Léanig Lelen, elle a une passion pour la nature. Alors, je l'ai rencontrée, vous allez voir, tranquillement. Bah, il est mieux que ce soit à l'intérieur, à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur. Elle va nous dire tout. On part pas très loin, pas très loin d'ici, dans le centre de la France.
Nous sommes à Sargis-sur-Braye, une grande commune du Loir-et-Cher. On est à la Braye, qui coule juste devant nous, un joli cours d'eau où il y a des belles prairies humides.
Vous avez quel âge ?
Je vais bientôt avoir 27 ans.
Oh là là, 27 ans, ça commence à être très très vieux, bien sûr. Ce qui nous intéresse bien, c'est votre parcours.
Aujourd'hui, je suis éducatrice à l'environnement, la nature. Moi, je suis, donc, comme mon prénom l'indique, Lénaïque. Je suis issue,
un peu bretonne. Hein.
Voilà, du Finistère Nord, oui. Issue du milieu rural où mes grands-parents étaient agriculteurs. Et donc, moi, j'allais en vélo voir mes grands-parents. J'ai toujours vécu dehors, au contact de la nature.
Et quel endroit ils étaient, vers quel coin ?
À Guimec, à côté de Morlaix.
Oui, donc il y a quand même la ceinture du Léon, hein, de mémoire, ceinture maraîchère quand même.
Voilà, donc ils avaient des vaches et ils faisaient aussi des légumes.
Donc il y a une immersion avec les grands-parents.
Voilà, et mes parents aussi qui avaient une affection particulière pour nous mettre dehors, pour qu'on aille jouer dehors en fait.
Et alors après, comment ça s'est passé pour devenir éducatrice à l'environnement ?
Alors après, j'ai fait un BTS gestion et protection de la nature à Morlaix. Ben, là, j'ai découvert que ça pouvait être un métier. Après, j'ai voyagé un peu dans différents coins de la France où j'ai travaillé dans différentes associations de protection de l'environnement. J'ai travaillé à la Ligue pour la protection des oiseaux, dans des centres permanents d'initiatives pour l'environnement. Dans le Nord-Pas-de-Calais, l'île Dorée.
Et aujourd'hui, qui vous emploie ?
Alors, je suis salariée d'une association qui est basée dans le nord du Loir-et-Cher qui s'appelle Athéna, Association pour les terroirs, les hommes et la nature. Donc, une jeune association.
Et hommage aux chouettes, bien sûr.
Voilà, à l'archevêche d'Athéna.
Alors, le quotidien, qu'est-ce que c'est quand on est éducatrice à l'environnement ? Qu'est-ce que je fais ? Moi, j'ai 5 ans, je vais avec vous. J'ai 85 ans, je vais avec vous.
Alors, mon quotidien, c'est d'aller dans les écoles, d'aller avec les grands comme les petits, les emmener dehors au contact de la nature pour qu'ils redécouvrent leur environnement proche. Parce qu'on parle souvent de la nature, de l'image de la biodiversité, des animaux exotiques. Et en fait, on ne se rend pas vraiment compte. Mais quand on sort dans notre jardin, eh ben, on n'a qu'à ouvrir les yeux, on s'émerveille. Et donc, moi, c'est emmener les enfants et même les grands à s'émerveiller dans leur jardin.
Des haies là, qui sont là. Donc, votre terrain de jeu quand vous emmenez les gamins, ça peut être quoi là ?
Alors, c'est déjà de les mettre les pieds dedans. Parce qu'on peut phosphorer sur la nature, être en classe, faire des vidéos de ce qu'est la nature, mais on la connaît quand on met les pieds dedans. Donc, c'est déjà emmener les enfants avec les bottes aux pieds et aller mettre les pieds dans l'eau, aller patauger, aller chercher, creuser, expérimenter au bord de l'eau pour qu'ils aient des souvenirs forts, en fait, des moments où émotionnellement ils étaient en contact de la nature pour que plus tard ils se disent « Ah mais cet endroit je l'aime, j'ai vécu des bons moments, j'ai eu des bons souvenirs, j'ai envie de le protéger ».
C'est intéressant parce que vous êtes une créatrice d'émotions, enfin, c'est un peu ça l'idée de se dire « Après ça restera gravé et ça pourra ressortir positivement ».
Oui, c'est ça mon principe éducatif, c'est que le savoir, les enfants à l'heure actuelle, en plus à l'heure d'Internet où on dématérialise beaucoup de choses, le savoir on le trouve. Oui. Mais l'envie de chercher, on ne l'a pas forcément. Et moi j'ai envie d'être ce déclic, d'avoir dans leurs yeux un moment où ils vont se dire « Ah mais j'étais heureux d'être là, les pieds dans l'eau, où je pensais à rien, où j'étais juste émerveillée de voir l'eau qui coule, d'entendre le bruit, de me dire « Hé, j'ai entendu un martin pêcheur ». Moi, je suis passionnée.
Ah oui,
Au fond de moi, je m'émerveille d'ouvrir les yeux et d'imaginer le vol d'une chauve-souris, de les entendre. Et c'est des bonheurs simples. C'est mon lot quotidien. Je vais aller me promener dans un coin. Je vais après aller dire à mes élus, bah, ce coin-là, il est sympa quand même. On était bien là. Quand on a des citoyens éclairés, des citoyens qui ont envie, qui sont attachés à leur territoire, eh bien, on a des élus qui auront envie et qui seront là pour écouter leurs citoyens. Parce que derrière, les élus, ben c'est nous. Et c'est par notre action, par nos envies, nos ambitions, qu'on arrivera à faire bouger les politiques publiques et à préserver notre patrimoine commun, notre paysage commun, qui est la nature.
Je disais créatrice d'émotions, mais créatrice aussi de petits citoyens. Hein.
Ah ben, l'objectif de l'éducation à l'environnement, parce que ce gros terme-là que j'utilise, c'est mon métier. C'est un levier pour avoir des citoyens. Moi, je ne définis pas les choix des citoyens, je leur donne juste les clés de compréhension pour qu'ils fassent leur choix. Qu'ils aient toutes les clés pour se dire, moi aussi, à mon échelle, je peux faire mes propres choix, je peux être acteur et citoyen.
Est-ce que vous avez vu déjà des choses qui ont un peu bougé ?
C'est vrai que quand je vais dans les écoles, les enfants ou les parents me voient à la fin des sorties, me disent « Mais c'est vous les naïcs, mais qu'est-ce qu'on entend parler de vous ?» Et après, quand il faut qu'on aille à l'étang, on regarde les libellules. Et qu'est-ce qu'on passe du temps maintenant à côté de cet étang ? Et là, je me dis « Mais c'est magique !» Parce que c'est aussi eux, dans leur quotidien, où ils se sont réappropriés des endroits de nature de proximité.
Bon, alors là je vous suis... On est donc devant cette rivière qui est la Braye, hein, c'est
oui,
ça ?
Oui, c'est ça.
Voilà. Bon, c'est pas un fleuve, hein, on ne veut pas exagérer non plus. Mais alors, c'est un terrain de jeu et de découverte. Alors là, il y a tout ce qu'il faut. Hein. C'est, dès qu'on soulève un caillou, paf, on peut voir le bon état aussi écologique d'une rivière. Là,
oui, ce lieu-là, rien qu'à l'observer...
Ça sent bon, en plus.
Quand on ouvre grand les oreilles, on entend le bruit des ailes des libellules.
Ça, on les entend peut-être pas complètement, les libellules. Enfin, bon,
mais elles sont là. On les imagine, elles sont là avec nous. Elles sont juste en pleine émergence. Là, il fait beau, elles sortent.
Petite libellule, hein, voilà. Et alors ça, vous partez là-dessus. Puis qu'est-ce que vous leur racontez aux enfants ?
Souvent, moi, j'emmène les enfants. Tranquillement. Les yeux fermés. Oui. On avance les yeux fermés et on s'assoit.
Bon, vous en perdez pas dans la flotte, non ?
Non, ça va. Donc on avance, on est là, les yeux fermés. Et là, on s'arrête. On ouvre grand nos oreilles. Et on met tous nos sens en éveil. Avec nos oreilles, on essaye d'imaginer ce qu'on a devant nous. On entend l'eau qui coule, on entend le chant des oiseaux, on entend le bruit du vent dans les feuilles. Et là, on imagine, et c'est une fois qu'on a imaginé, qu'on ouvre les yeux.
Lénaïque Le Laine, donc à Sargy-sur-Braye, dans le Loir-et-Cher, donc de l'association Athéna. Donc chez Athéna, ils font un sacré boulot. Et puis elle est aussi coprésidente du réseau École et Nature. Donc c'est de l'éducation à l'environnement, qui est un peu ratiboisé, faut bien le dire, au niveau des subventions, parce qu'actuellement tout ceci... Ben voilà, donc c'est... Oui, je vois bonheur, non, mais ils se bagarrent tous sur le terrain, parce que ce qui se passe pour le réseau École et Nature, c'est aussi pour d'autres lieux, que ce soit Graignes, qu'il faut aussi un sacré boulot, c'est pas simple du tout. Pour le monde associatif aujourd'hui, avec l'environnement, qui n'a pas exactement une cote fabuleuse, et pourtant c'est du travail fondamental, donc l'association Athéna, merci à vous. Donc Lénaïque Le Laine, petite réaction peut-être Marc Giraud, parce que vous connaissez évidemment ces façons de faire.
Bah, la nature, c'est une source de bien-être, hein, pour tout le monde, à tous les âges. Et pour les enfants, c'est vraiment c'est l'éveil des sens. On leur fait fermer les yeux, effectivement, toucher des écorces, etc. Et ils vivent, ils appréhendent leur capacité physique quand ils font des cabanes, des barrages, des choses comme ça. C'est des choses qu'ils font pas quand ils sont enfermés en ville. Ils n'existent pas dans le béton et on s'en rend pas compte. Souvent, je fais des sorties nature avec des enfants et c'est le cancre ou la cancre qui va se révéler complètement plein de possibilités, brillant, curieux, etc., qui n'était pas fait forcément pour l'école et pour être enfermé et qui s'exprime comme ça. Je me reconnais un peu là-dedans. D'ailleurs, et voilà, c'est une école de vie, la nature, de bien-être et de valeur aussi. Les animaux domestiques sont aussi des sources de. On dit que ce sont des pédagogues à quatre pattes. Hein. On a fait des études, par exemple, au Canada, qui montrent que là où on respecte les animaux, les enfants sont moins racistes, par exemple, parce qu'ils ont l'habitude de l'altérité, de la différence, de l'écoute de l'autre. Ils deviennent patients, ils se concentrent. Exactement le contraire de ce qu'on fait avec la télé, où les images arrivent toutes seules, par hypnose, et les enfants sont totalement passifs, et ils s'ennuient dès qu'ils ont pu cette onde comme ça de lumière, de couleur, d'action, de bruit, etc. Ils s'ennuient. Et je vois ça même à la campagne, c'est-à-dire les mômes, ils sont devant leur portable, ils ont un petit écran dans la main, ils ne voient plus ce qu'il y a autour d'eux, ils ne jouent plus, ils s'ennuient, c'est terrible.
Bon, bah écoutez, non mais on est là pour les
enfants. Donc la nature, c'est une source de bien-être, déterminant positif.
Et on le sait, nos amis qui nous écoutent le savent aussi en permanence. Voilà, alors le répondeur, pour rester un peu sur ce même thème, on va revenir donc à une actualité, on va dire, assez large. 01 56 40 40 35.
Bonjour Benny, bonjour tout le monde. Je m'appelle Corinne, j'habite dans le Finistère
Et j'avais une petite question, je voulais savoir ce que c'était que l'Agence pour la biodiversité. Merci.
Alors en fait, il s'agit de l'Agence française de la biodiversité. Alors c'est assez marrant parce que quand vous tapez sur Google AFB, vous avez l'Association française des banques d'abord qui sort. Bon, mais c'est normal aussi parce que en fait ils sont en état de préfiguration, on va vous dire ce que c'est. Et donc ils devraient ouvrir leurs portes, ils devraient le 1er janvier donc prochain. En fait, il s'agit d'une structure qui fédère alors l'ONEMA qui est l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, les parcs nationaux, les agences des aires marines et les ateliers techniques des espaces naturels. Il en manque quand même un important qui n'est pas dedans, Frédéric.
Bah, c'est la principale qui s'occupe de biodiversité. De fait, c'est l'ONCFS, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, qui est la plus importante en budget, en nombre de gens sur le terrain et qui gère les plans de chasse, entre autres. Et donc, c'est celle qui a qui est le plus proche du terrain et qui recueille le plus de données sur l'état de la biodiversité. Mais les discussions parlementaires ont abouti au fait qu'un jour peut-être, elles partageront au moins des informations, voire des gens de terrain. Bon, ça atténue un peu quand même la portée de cette affaire-là, qui d'ailleurs a un petit rôle attribué par la loi sur la communication et la formation des professionnels de la biodiversité, voire dans les écoles.
Alors le but quand même, c'est, on va dire, c'est d'aider quoi? C'est une agence de ressources, cette agence française de la biodiversité, pour aider les communes, pour...
Mais c'est surtout ça. Alors c'est une agence qui est censée piloter toute la biodiversité, toute la réglementation de la biodiversité. C'est aussi, oui. Ça peut être aussi une agence de moyens, mais effectivement pour les élus locaux qui sont confrontés à un empilement de textes qui fait dire à certains que la biodiversité est devenue un département administratif incompréhensible, l'agence est là pour les aider à rester dans les clous, pour les aider à monter des projets, pour faire en sorte par exemple que le projet de gymnase n'empiète pas sur une zone de reproduction de batraciens, tout simplement. Mmh. Là, c'est une agence de moyens, c'est une agence de cerveau et aussi un peu une agence financière, sauf que les finances, c'est pas encore ça, mon cher Denis.
Oui, alors c'est tellement pas ça que d'ailleurs, ils vont ouvrir merveilleusement avec un cadeau de Noël. Là.
Oui, un joli cadeau. Donc, l'Agence française de la biodiversité va réunir donc 5 autres agences, pile 200 agents, budget total 226 millions d'euros. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il faudrait 400.
Alors, 1200, c'est l'ONEMA plus les parcs nationaux.
Voilà, tout ça, ça
plus
fait 1200 agents. Voilà. Voilà, qui ont déjà peu les moyens d'agir, surtout l'ONEMA qui ne peut pas exercer sa politique de police de l'eau. Et en plus donc, dans la loi rectificative des finances publiques qui vient d'être votée, on vient de lui piquer à l'ONEMA 90 millions d'euros qui n'iront donc pas à l'AFB. Et on suppose qu'une part des financements de l'ONEMA par les agences de l'eau risque d'être également ponctionnée pour équilibrer le budget général de la nation, ce qui ferait en tout, donc on va faire le compte, 90 et 175 millions, 265 millions. Millions d'euros qui manqueront sur plusieurs années à l'ONEMA. En tout cas, là, déjà, 1er janvier 2007, cadeau de Noël, 226 millions moins 90, vous faites le compte, il manque 90 millions d'euros sur un budget qui était déjà un budget rikiki.
Et si on reste dans les soustractions, on s'intéresse maintenant aussi au fonds Barnier, on va dire aussi dans cette actualité. Donc ce fonds Barnier, là, c'est autre chose, c'est pour de la prévention.
Oui, c'est le fonds de prévention des risques naturels majeurs qui avait été créé en 1995 par le ministre du même nom, Barnier. C'est un fonds qui permet aux communes, qui permet de faire de la prévention, qui permet de rehausser des digues, par exemple, qui permet de reloger des habitants qui sont dans des maisons par trop menacées par l'arrivée des eaux, la montée des eaux, par exemple. C'est un budget qui permet de faire des études, c'est un budget qui permet, qui permet de faire de la prévention. Alors, ce budget, on le paye tous. Hein. Le fonds Barnier, il est alimenté par un prélèvement de 12% sur la prime catastrophe naturelle, qui elle-même représente 12% de nos contrats d'habitation. Je rappelle qu'en 82, c'était 5,5%. Voilà, donc comme quoi les catastrophes naturelles, notre vulnérabilité augmente. Bref, ça fait 55 millions d'euros ponctionnés sur ce fonds Barnier qui est censé quand même permettre donc aux communes de faire face aux aléas climatiques qui augmentent et de faire face en particulier pour les communes littorales à la montée des eaux et à l'érosion des côtes. Donc on se demande où est la logique alors que dans le même temps, début décembre, le gouvernement a voté une aide pour les communes confrontées à l'érosion des côtes. Moi, je n'y comprends rien.
Bien. Parfait. On a quand même quelques explications aussi. Hein. On voit bien.
On manque des sous partout. Hein.
C'est un petit peu ça. Voilà, on va poursuivre ce voyage cette fois-ci en musique. Et puis on va retrouver Marc Giraud. On va parler aussi d'artistes qui font des tas de choses, de peintres en faveur du climat. Ce sera juste après Polo et Pan.
Sauvage, ouvre tes bras. Il en faut peu. luxuriante, d'une jungle oléale exubérante. Des arbres millénaires nous ont adoptés et nous vivions heureux dans la canopée. Jungle sauvage.
Eh ben oui, c'est agréable, ça canopée, polo et pan sur France Inter, c'est au de mon amour, avec dans ce studio Marc Giraud et Frédéric Danhé. Un petit coup quand même sur la loi montagne aussi, on a quand même 9 massifs de montagne, ceux que nous connaissons évidemment en métropole, on va rajouter la Guadeloupe, la Réunion et puis la Martinique, la Corse aussi. C'est quand même un quart du territoire aujourd'hui, 10 millions d'habitants quand même qui y vivent. Vous avez une commune sur 6 qui se trouve en zone de montagne et donc là c'est en cours de révision.
Bah, c'est même révisé c'est fait, carrément. C'est fait, oui. La première loi montagne date du 9 janvier 85. Donc là, c'est l'acte 2. Elle a été actualisée en fonction de la désertification rurale et de l'augmentation en même temps des activités touristiques. Donc c'est une loi qui, dans ses intentions, est très intéressante parce que elle tient compte des handicaps naturels liés à la montagne pour les compenser. La solidarité nationale jouant pour permettre, par exemple, faciliter l'installation ou le maintien des docteurs, pour faciliter l'arrivée d'Internet un peu partout, pour faciliter le travail des saisonniers, de la pluriactivité, notamment des agriculteurs qui ont du mal à joindre les deux bouts. Mais on sent bien dans cette loi quand même qu'on s'oriente beaucoup plus sur le développement économique, hein, avec beaucoup de dérogations pour permettre aux communes de continuer des activités liées au ski, par exemple, même si la loi tient compte
ça veut dire davantage de canons à neige, quoi.
Dans certains cas. En même temps, la loi, manifestement, oblige, si l'on veut construire des bâtiments nouveaux pour accueillir les skieurs, d'utiliser les bâtiments anciens pour les rénover, de façon à ne pas empiéter sur les sols naturels et les sols agricoles. Par contre, elle dit peu de choses, assez curieusement, sur le maintien de l'agriculture, elle dit peu de choses sur l'élevage, et Marc Giraud va en parler, c'est assez flou sur les prédateurs, et en particulier le loup.
C'est même pas flou, c'est-à-dire qu'il y a carrément des amendements anti-loup. C'est quand même terrible. Aujourd'hui, ce qui se passe avec le loup en France, il y a un climat d'hystérie, on ne peut même plus parler sereinement du dossier loup, parce que c'est tout de suite les éleveurs, c'est tout de suite la violence, le mot cohabitation a disparu, et il se passe en ce moment, les vrais brebis dans cette histoire, c'est les écolos. S'ils sont bien gentils, les écolos, ils lèvent le doigt pour aller voir la dame, donc ils demandent des rendez-vous pour aller au ministère, et ils ne sont jamais, jamais, jamais reçus, ni par Ségolène Royal, qu'on appelle maintenant Magolène Royal, ni par son staff, jamais. Il y a quelques éleveurs excités, attention, hein, être pour le loup, c'est pas être contre les éleveurs, hein, oui. Mais quelques excités qui viennent, qui sont en colère. Oui, je le précise bien, parce que qu'on fasse pas d'amalgame. Mm-hmm. Justement, il faudrait faire la part des choses entre ceux qui jouent le jeu et ceux qui jouent pas le jeu. Oui. Ceux qu'on entend, c'est ceux qui jouent pas le jeu, c'est les plus violents. Donc, ils viennent à Paris avec 3 brebis, ils sont tout de suite reçus par Madame Pompilis, que le Caplou, l'ASPAS et les autres associations, qui représentent 120 000 personnes quand même, n'obtiennent pas depuis des années. Eux, ils ont tout de suite des dérogations et des arrêtés de tirs illégaux, parce qu'aujourd'hui les préfets et le ministère font des tirs illégaux. Voilà où on en est aujourd'hui. Il y a 300 loups en France, il y en a 2500 en Espagne, et c'est ici qu'il y a des problèmes.
Alors, ce que je vous propose, hein, on a c'est bien chaud.
je me contiens.
J'ai bien compris. On va sortir la hotte. Allez.
CO2 Mon Amour, Denis Chessou, sur France Inter.
Voilà. Et là, dans cette hôte, c'est vrai que la semaine dernière, on n'avait pas pu tout glisser. Et il y a quelque chose qui va vous réjouir aussi, Marc Giraud. Donc, je rappelle que déjà, votre livre, on va le mettre dedans. La nature au fil des saisons. Et puis, j'ai un calendrier là qui est très bien. Donc, un calendrier avec évidemment 12 pages. Donc, qui a été créé par Chiffchaff, qui font un boulot formidable sur le son. Et donc, c'est une année avec les oiseaux. Alors, par exemple, du côté du mois de décembre, on va pouvoir entendre... Ah oui, petit...
Ah oui, c'est le rouge-gorge.
Ça, c'est le rouge-gorge.
Le petit son flûté triste du rouge-gorge, oui.
Oui, il est triste, vous dites? Oui,
un petit peu, oui.
Oui, un peu dépressif, le rouge? Non,
non, il chante tout le temps. Alors lui, même l'hiver, oui.
D'accord. Alors, si on passe au mois de janvier, là, on va rencontrer le verdier d'Europe. Et sous la neige, vous avez des grappes rouges d'une viorne absolument étincelante. Et ce verdier apporte une petite touche de couleur, comme ça, jaune vif. On tourne encore les pages, on va arriver au mois de mars. Et là, on va voir le chardonneret.
Ah oui, oui, ah, toujours en bande, lui. Oui.
Toujours.
Oui.
Là, on va le mettre, mettons, sur une bande de prunus, déjà, entre les fleurs blanches, les bourgeons vert tendre. Et donc, il est très beau, il est très élégant.
Et on n'a pas les couleurs, mais c'est un vrai petit oiseau des îles. C'est comme la mésange bleue de la couverture de mon livre. C'est pas pour le vendre. Mais,
pas du tout.
Mais c'est tellement beau. C'est un dessin de François Desbordes. En plus, on a des oiseaux magnifiques, magnifiques. Et le chardonneret, c'en est un. Aile noire avec une barre jaune vif, la tête rouge, c'est magnifique.
Non,
c'est notre patrimoine.
Mais oui. On va aller du côté du mois d'avril. Ah, on connaît ça. Bah évidemment, ça c'est la chouette hulotte.
Alors le mâle.
Le mâle, garçon, t'as raison. Parmi les clochettes déjà ceintes là, en fleurs déjà. Mais oui, c'est ça. Vous avez cette chouette qui est au sol en pleine journée. Et donc c'est celle qu'on appelle le chahuant aussi. Hein. Donc,
oui, à cause des chouans.
Des chouans, absolument. Oui. Chouans,
qui imitait ce cri.
Oui, le cri de ralliement. Évidemment, on l'entend davantage dans la nuit.
Et en Vendée.
Et en Vendée, oui. Ouais, non, un peu partout quand même. Si on est au mois de mai, on va se faire un petit...
Bon, ah, oui. Classique. Cuculus canorus, ça tout le monde le connaît. Aussi facile que celui qu'on entendait tout à l'heure pendant la jeune fille, qui s'appelle le pouillot véloce, qui fait tsip tsap. Très très facile à retenir. Il y en a partout, on fait pas attention et on l'entendait pendant toute l'interview tout à l'heure, voilà, le couillot véloce.
Et puis on va s'en faire une petite dernière qui est la mésange, mais laquelle? Ah, celle qui va au charbon.
C'est oui, la charbonnière.
Ben, c'est la charbonnière. Bah oui, c'est malin, oui, bien sûr. Surtout qu'on a fermé les dernières.
Ah, voilà, fait son chant de notes, celui-là je l'ai entendu ce matin. Tita, tita, tita. Et ça, c'est aussi un chant très, très facile qu'on entend partout, qu'on entend à Paris. J'ai entendu aussi tout à l'heure à Paris.
Bien. Alors voilà. Donc ça, c'est pour notre hôte. Et puis, ce que je vous propose maintenant, on va donc rencontrer une femme qui s'appelle Anne et qui a un projet artistique très intéressant avec un ouvrage qui s'appelle Hey, Hey, c'est une interjection, 4 degrees art. Et 4 degrés, évidemment, 4 degrés, ça interpelle sur le climat. Ça veut dire, Jean-Frédéric, 4 degrés, c'est pas vivable. Hein, ce 4 degrés de climat supplémentaire.
Disons que c'est pas maudit, on sait pas, donc mieux vaudrait s'abstenir en fait.
Oui, c'est ça, vous mieux arrêter de régler le thermostat de la planète, et qui va nous dire donc bonjour à vous, quelle est en fait l'idée de ce 4 degrees art?
Bonjour Denis, on a créé une revue d'art qui s'appelle Hey Modern Art and Pop Culture et on est commissaire d'exposition. Donc toute l'année on est plongé, on va dire, dans l'art figuratif pop contemporain, c'est ce qu'on défend. On a décidé, nous, Julien et moi, et quelqu'un avec qui je travaille aussi qui s'appelle Zoé Forger, de positionner en fait le projet qu'on a est face aux problématiques environnementales qui pour nous deviennent intenables d'un point de vue de citoyen. Donc on a décidé de faire parler les peintres qui ne parlent jamais de ces problématiques-là. On a trouvé pour saturer, on va dire, notre propos, on a trouvé la Charte de la Terre. C'est vraiment un texte magnifique, universel. Et on a envoyé ce texte à tout notre réseau.
Ce sont des artistes, alors aussi bien français, mais beaucoup d'Américains, des Canadiens, des Anglais, des Australiens, des Chiliens, des Croates, j'en passe, c'est des meilleurs.
Donc il y a 20 pays représentés, 102 artistes qui prennent la parole, des artistes très différents et qui ont des préoccupations ou des focus très distincts en fonction des pays qu'ils occupent. Par exemple, en Asie, ils mènent une vraie réflexion quant à la surpopulation. Les Américains, enfin les artistes en tout cas avec lesquels on travaille, sont très préoccupés par toute l'hégémonie des trusts et la puissance des lobbies là-bas.
Alors vous avez des questions, comme nous nous trouvons à un moment déterminant de l'histoire de la Terre, le moment où l'humanité doit décider de son avenir. Si c'est possible, comment vous l'imaginez? Alors là, évidemment, c'est assez génial parce que le fil conducteur, c'est ce destin commun. Aujourd'hui, on ne peut plus s'ignorer les uns et les autres, quoi.
Oui, c'est évident. là-dedans. Alors, il y a une problématique qui est constante chez les artistes, c'est d'explorer la relation qui nous lie entre êtres humains et avec tout le vivant qui nous entoure. Et puis, il y a aussi cette espèce de capacité, en fait, qu'on a de pouvoir espérer rester en vie. Alors, c'est très rigolo parce que quand on discute avec les artistes qui sont principalement basés sur leur imaginaire, on a un déploiement d'histoires et de solutions qui sont quelquefois rocambolesques. Par exemple, un artiste français qui s'appelle Alex Wendizak, qui lui nous compare à un légume et à la beauté en fait d'un légume, et aussi bien d'un point de vue esthétique que d'un point de vue vital.
Sur la dernière question que vous leur posez, toute fausse modestie mise à part, pensez-vous pouvoir avoir un rôle à jouer, vous, en tant qu'artiste ? Qu'est-ce qu'ils disent tous ?
Tous ont vraiment le sentiment de contribuer à la société dans laquelle ils vivent. Ils jouent beaucoup sur l'idée, qui est aussi une de nos idées de base, et une des idées de base du livre, c'est le pouvoir cognitif de l'art, le fait que rencontrer de l'art, ouvrir sa vie à cette curiosité-là, vous rend plus empathique, vous pousse à tenter de comprendre les mécanismes qui gèrent l'environnement et le vivant. Donc ils ont chevillé au corps ce sentiment quand même d'être très utile à travers la peinture, la sculpture, le dessin.
Et donc cet ouvrage s'appelle Hey, Four Degrees Art de Anne et Julien. Donc très beau projet artistique avec beaucoup de peintres, hein, de créateurs qui répondent à ces différentes questions. 01 56 40 40 35, là aussi ce sont vos messages.
Demain dimanche 18 décembre à Kolbsheim, à 15 minutes de Strasbourg, sortie militante contre le grand contournement ouest de Strasbourg, le GCO, mais aussi sortie culturelle en visitant le jardin remarquable du château de Kolbsheim, monument historique. À partir de 11h, animation, restauration, visite historique et naturaliste. Plus d'infos sur le site GCO. Non, merci. On vous attend.
Voilà, non, merci au grand contournement ouest de Strasbourg. Et puis un autre message, là, cette fois-ci une tonalité plus positive qui nous emmène du côté du Médoc.
Bonjour Denis, c'est Gérard Chausset de Bordeaux Métropole, de Mérignac. Et je voulais tout simplement t'informer que depuis ce samedi 17 décembre, eh bien, on a inauguré le tramway du Médoc. C'est l'extension de la ligne C. Tout ça, c'est un peu barbare pour les auditeurs, mais tout simplement, c'est une extension de ligne qui est concomitante à la ligne qui va jusque dans le Médoc, la ligne en voie unique du TER. Et donc, la cube Bordeaux Métropole a eu ce formidable idée d'utiliser l'emprise qui avait été laissée par les anciens, puisqu'ils avaient construit une voie de chemin de fer en voie unique, pour construire une voie sur 7 km jusqu'à Blanquefort. C'est un peu une première, même si ce n'est pas aujourd'hui un tram-train, ça pourra le devenir d'ici quelques années. Et surtout, ça va permettre à tous les habitants de cette zone et début de la presqu'île du Médoc de pouvoir relier facilement l'agglomération bordelaise en une vingtaine de minutes pour une centaine de millions d'euros. C'est un investissement qui est, à mon sens, écologique, qui est d'intérêt général et qui va permettre de laisser sa voiture, et par les temps de pollution qui courent, y compris sur Bordeaux Métropole, c'est une inauguration qui tombe à pic de pollution. À bientôt, Denis. Merci.
Oui, ça c'est quelqu'un qui écoute un peu trop nos jeux de mots foireux, donc à pic de pollution. On l'a peut-être pas fait, ça, mais enfin,
c'est bien.
Frédéric, ça nous amène ça aussi à revenir sur les transports. Là, vous étiez à Marseille, enfin, il n'y a pas si longtemps, cette semaine. Et aujourd'hui, en fait, avec tout ce qui se passe d'un point de vue transport, donc ça, c'est aussi très révélateur. Ce que on en parlait, nous, comme étant des signaux faibles, ça commence à remonter plus fortement. Le patronat s'inquiète aujourd'hui de ces problèmes d'engorgement.
Et oui, alors, au niveau national, et j'en reviens à Marseille très vite, on a 10% de chômeurs en France, 2,5% seraient liés à des problèmes de mobilité. Vous avez un demandeur d'emploi sur deux qui est obligé de refuser un emploi pour des problèmes de mobilité. Le Code du travail estime qu'une offre raisonnable, c'est une distance de 30 km et une heure de trajet pour aller à son travail. Eh bien, vous avez des agglomérations très étalées, très dispersées comme Marseille, où il y a une impossibilité totale pour les chemins de trouver du boulot. Pourquoi ? Parce que les embouteillages sont tels, qui doublent les temps de trajet moyen, par exemple, entre Aubagne et Marseille, les embouteillages sont tels qu'ils coûtent une fortune, 300 à 400 euros par mois, jusqu'à 300 et 400 euros par mois pour les travailleurs qui utilisent leur voiture. Et donc, pour un smigard, c'est juste impossible. Résultat, vous avez le patronat local qui a du mal à trouver des personnes qu'il cherche dans les filières à horaires décalés, comme par exemple les magasins, hein, la mise en rayon des magasins, comme les femmes de ménage, comme même les personnels hospitaliers, hein, les garçons de salle. Voilà, ils trouvent. Voilà, vous avez des chômeurs qui ne peuvent pas se déplacer, vous avez des employeurs qui ne peuvent pas recruter. Et face à ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben, c'est très compliqué parce qu'il n'y a plus de foncier, parce que l'autoroute est partout. C'est très compliqué de faire des moyens de transport lourds. Donc, eh bien, le patronat incite ces entreprises à essayer de décaler les horaires de travail de façon à ce que tout le monde ne se retrouve pas sur les moyens de transport lourds, à utiliser, par exemple, ça c'est l'agglomération de Marseille, les bandes d'arrêt d'urgence pour faire circuler des bus à haut niveau de service de façon à gagner un peu, hein, 3 minutes sur des trajets de 30 minutes. En fait, derrière tout ça, on voit bien que c'est le symbole d'un monde qui est arrivé à ses limites. Physiquement, on est arrivé aux limites. Le territoire ne peut plus gérer, ne peut plus fonctionner aujourd'hui parce qu'on ne peut plus faire passer de voitures, parce qu'on ne peut plus faire passer de bus, et on va donc vers une réorganisation, on devrait aller vers une réorganisation de la notion même de travail, télétravail, espace de coworking, comme on le dit, c'est très symptomatique et même le MEDEF s'inquiète des embouteillages pour simplement pouvoir recruter des gens. Et puis surtout, et j'en termine là, parce que tout cela coûte tellement cher que le niveau de vie des salariés augmente et ils préféraient que le niveau de vie augmente plutôt que de devoir augmenter le salaire de ses employés.
On voit bien. Quel rapport on peut faire avec Europa City? On en a parlé d'Europa City. Là, ça nous renvoie donc en région nord, donc parisienne. Il s'agit de poser sur 800 hectares de sol parmi... 80 hectares. Effectivement, 80 hectares.
Zéro,
c'est déjà pas mal. Oui,
c'est déjà pas mal.
Non, c'est déjà bien. N'abuse pas de lui. Donc voilà, donc 80 hectares, c'est déjà bien. Bon. Donc, ça fait partie des sols quand même les plus fertiles. Ça, on est bien d'accord. Tout un complexe absolument énorme, donc qu'on est en train de nous vendre comme étant un nouvel espace culturel, etc.
Bon, c'est un espace de vie.
Et donc, c'est une grande zone commerciale. Mais qu'est-ce qu'il y a d'intéressant, de lien que l'on peut faire?
Eh bien, de façon très étrange, le groupe Auchan, Europa City, hein, avait omis de dire que quasiment 50% du capital appartenait à Vanda, qui est un géant du cinéma, qui donc, du coup, a sorti du chapeau un projet d'installation d'un complexe cinématographique. Il y en a déjà 3 hein, dans un rayon de 5 km, mais c'est pas grave. Voilà, donc Europa City, on sait ce qu'on en pense. C'est déjà mal parti, mais en plus, voilà, il y a quelques omissions qui font que ce projet sera encore plus gros qu'on ne l'imaginait et sera encore plus concurrentiel pour tous les autres centres commerciaux qui se trouvent autour. Et puis, et ça a un lien avec tout ce qu'on vient de dire sur les transports, c'est que, évidemment, pour alimenter en clients ce projet gigantesque et délirant, il y aura encore plus d'embouteillages sur les routes, il y aura encore plus saturation du RER qui est déjà saturé. On n'en voit donc pas trop l'intérêt.
Mais on va vous dire qu'on fait le Grand Paris, enfin, pas pour ça, heureusement.
Justement, il y a déjà, comme quoi les choses étaient déjà bien pensées, il y a une station de la ligne 17 du Grand Paris, que d'aucuns un peu plein d'humour appellent déjà la station Europa City. Il y a une station qui est prévue dans le triangle de Gonesse. C'est assez étrange parce que pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Bon, enfin, voilà, c'est un projet qui n'a pas beaucoup d'utilité.
Faisons-nous du bien, Marc Giraud. Si on lève les yeux au ciel, qu'est-ce que l'on voit en ce moment?
En ce moment, on voit des vols de vanneaux. C'est des oiseaux qui sont très foncés en haut, très clairs en bas, ce qui fait que de très très loin, on les distingue parce que ça fait une vibration optique et c'est un signe de froid. Quand je vois mes premiers vols de vanneaux à l'automne, je sais que ça va être beaucoup plus froid. Et on les voit en ce moment, c'est un beau petit oiseau de nos campagnes. Voilà. Et si vous voulez rester sur un truc optimiste, moi je pense l'avenir est à la contemplation. C'est ce qu'on appelle la nouvelle alliance avec l'équipe de Jacques Perrin. On est très en phase avec à l'ASPAS. Vous savez, on a des espaces sauvages qu'on laisse en entièrement libre naturalité. C'est-à-dire, il n'y a rien, il n'y a pas de chasse, pas de civiculture, rien. Et la nature s'exprime. Jacques Perrin est très en phase avec ça. Mmh. Et notre truc, c'est que dans le monde entier, aujourd'hui, la nature rapporte aussi de l'argent. C'est pas seulement écologique, c'est économique. C'est-à-dire qu'en Roumanie, par exemple, on fait des affûts à loups, à ours, etc. Et que ça rapporte un sacré pognon. Et un jour, j'ai la foi, on ira écouter les loups dans nos montagnes. Et ça rapportera un peu plus d'argent que ce qui se passe aujourd'hui.
Et on va écouter pour terminer ce dernier message, 01 56 40 40 35, c'est pas mal, c'est une jeune fille qui fait des choses.
Bonjour, je m'appelle Nita Smith, j'ai 22 ans, et avec mon association Les Petits Hommes Verts, j'ai lancé un projet dont la campagne de financement participatif commencera à la fin de la semaine sur Ulule. Donc pour faire court, je m'installe 4 mois dans 4 villes de France où je mets en place 3 projets environnementaux et je visite des structures alternatives, je fais quelques interviews. Tout ça, ce sera filmé pour inciter les citoyens à mettre en place des projets similaires dans leur ville. Donc ensuite, je vais faire une enquête de terrain sur les 4 mois d'après, à partir de mai, en Amérique latine pour étudier la place de l'environnement dans un contexte où se développer est la priorité. Donc le but de tout ça, c'est de faire une web-série un peu humoristique et montrer que nous ne sommes pas que des simples consommateurs, mais de véritables acteurs, qu'il faut rester positif et qu'il serait temps de replacer l'environnement au cœur de nos sociétés. Si vous voulez rejoindre l'aventure ou suivre le projet ou avoir simplement plus d'informations, vous pouvez nous suivre sur la page Facebook Les Petits Hommes Verts ou par mail petitshommesverts@ntymail.com. Bonne journée à vous. Au revoir.
Nikita Smith, 22 ans. Donc Les Petits Hommes Verts, ben, elle aussi nous fait du bien. Donc le 01 56 40 40 35, ne vous gênez pas pour laisser vos messages. Merci à Kevin Pelot, à Raphaël Rousseau, merci à Patrick Deschamps, à Camille Blanès, Lise Combe qui réalisait cette émission. Merci, chère Lise, parce qu'aujourd'hui c'était un peu une piste de slalom, quoi. Donc c'était, voilà. À Muriel Pérez qui a choisi les disques, à Anne Bouzon qui nourrit les sites de CO2 Mon Amour. Et on se retrouve la semaine prochaine. Ah, on retrouvera entre autres Jean-Marie Pelt, ça nous fera plaisir. Et d'autres reportages en ce 24 décembre.